Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Avec vous aujourd'hui, Anthony Lefebvre pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Je suis ravi de vous retrouver et je salue chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Au programme aujourd'hui, la nouvelle phase du conflit ukrainien est dangereuse pour Kiev selon un média américain. La France lève les restrictions à la délivrance des visas pour les Marocains et la Tunisie qui envoie un nouvel avion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. La marine russe a fait escale dans un port en Algérie. Un expert militaire algérien évoquera l'importance de cet événement pour la coopération entre Moscou et Alger. Le 14 novembre 1981, la Confédération de la Sénégambie était proclamée. Un analyste politique sénégalais reviendra sur la portée de cette date historique. La journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, c'est le 14 novembre. Un conservateur de musée béninois reviendra sur cette problématique qui touche particulièrement le continent africain. La semaine internationale de la science et de la paix, c'est en ce moment. Le doyen de la faculté polytechnique de Kinshasa nous présentera les défis actuels pour le développement de la science sur le continent africain. Les choses se gâtent pour l'Ukraine. Le Wall Street Journal a rapporté que la prochaine phase du conflit en cours devient défavorable pour Kiev en raison de l'augmentation de la puissance de combat de la Russie. Selon un haut responsable ukrainien de la sécurité cité par le média, la Russie a construit une usine de drones pouvant produire 1000 engins explosifs à longue portée par mois. Par ailleurs, la publication indiquait que Moscou possède d'énormes stocks d'armes, tandis que Kiev, qui dépend fortement des approvisionnements occidentaux, est en manque de munitions et de matériel militaire. Pour rappel, Valery Zaloujny, le commandant en chef des armées ukrainiennes, avait indiqué dans une récente interview pour Forbes que ses troupes s'étaient retrouvées dans une impasse et qu'il n'y aurait sans doute aucune grosse percée sur le front. Suite à cette interview, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a désavoué les propos tenus par M. Zaloujny. De son côté, Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la contre-offensive ukrainienne avait échoué. Le chef du ministère russe de la Défense a indiqué que malgré le soutien logistique en armes des Occidentaux, l'armée de Kiev n'a réalisé aucun progrès significatif sur le front. Plus de 90 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés depuis le début de l'offensive, toujours selon la défense russe. La France a levé toutes les restrictions à la délivrance de visas pour les Marocains. C'est son ambassadeur à Rabat, Christophe Le Courtier, qui l'a annoncé au micro de Radio 2M. Le diplomate a assuré que désormais, il n'y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visas. Toute personne qui répond aux critères requis obtiendra son visa, a-t-il précisé à la radio. Monsieur Le Courtier a ensuite commenté cet épisode de restriction qui a duré pendant 2 ans. Selon l'ambassadeur, cette mesure prise par la France a porté atteinte à son image au Maroc. Selon lui, on ne gère pas une relation aussi intime que celle entre Paris et Rabat avec des statistiques. Pour rappel, la France avait décidé en septembre 2021 de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, ainsi que de 30% à la Tunisie. Paris avait justifié cette mesure par le fait que ces trois pays refusaient d'accorder des laissez-passer consulaires nécessaires à la reconduite aux frontières de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Les autorités tunisiennes ont envoyé un nouvel avion chargé de 13 tonnes d'aide humanitaire pour Gaza. Celui-ci a décollé le 13 novembre de la base militaire d'El Aouina à Tunis en direction de l'aéroport d'El Arish en Égypte, a annoncé l'agence de presse tunisienne. Cette aide humanitaire comprend des médicaments, des équipements médicaux, des fauteuils roulants, 10 000 repas prêts à consommer, du lait pour bébé, des couvertures et d'autres produits. C'est la deuxième fois que Tunis lance ce type d'initiative. Le premier avion chargé d'aide humanitaire avait été envoyé le 15 octobre dernier. Les autorités tunisiennes se disent également prêtes à envoyer des équipes médicales et à déployer des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza lorsque les conditions le permettront. Pour rappel, depuis le 7 octobre dernier, la situation dans la bande de Gaza s'est dégradée. L'armée israélienne bombarde de manière intensive les bâtiments en réponse à une attaque meurtrière du Hamas. Plus de 11 000 personnes ont été tuées côté palestinien. Israël a revu le nombre de morts à la baisse, passant de 1 400 à 1 200 morts. Le porte-parole du ministère israélien a déclaré qu'il s'agissait d'une estimation actualisée, sans toutefois fournir d'explication sur ce nouveau chiffre. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La frégate russe Admiral Grigorovitch a fait escale au port d'Alger le 12 novembre. Le ministère de la Défense algérien a indiqué qu'elle resterait dans ce port jusqu'au 14 novembre. Selon le ministère, elle vise à renforcer la coopération militaire conjointe entre les forces navales algériennes et la marine russe. Mise en service en 2016, la frégate Admiral Grigorovitch appartient à la flotte de la mer Noire. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des navires russes viennent jeter l'ancre dans le port d'Alger. Le 16 août dernier, le navire hydrographique Kildin a fait un arrêt de 3 jours sur les côtes algériennes. Enfin, du 27 au 29 août, c'était au tour de la corvette lance-missile Mercury 734 de faire escale dans ce port. Au micro de Spoutnik Afrique, Akram Kariev, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense, a réagi à cette nouvelle. Selon vous, que signifie la présence d'un navire russe dans un port algérien ?
La visite de la frégate Admiral Grigorievitch à Alger ces deux derniers jours préfigure peut-être un achat, une commande ferme par l'Algérie de ce modèle de frégate. L'Algérie a montré son intérêt pour ce type de frégate depuis plusieurs années, mais il semble que il y a un renouveau dans la demande avec la mise en fonction du nouveau missile Tsirkon qui intéresse beaucoup la marine algérienne, puisque c'est un missile supersonique, hypersonique même. Donc il semble que l'Algérie soit maintenant de plus en plus intéressée par cette frégate, surtout si elle est équipée de missiles Tsirkon. Sinon, c'est une frégate multirole, donc qui assure la défense antiaérienne avec des missiles équivalents à ceux du Buk, qui tire une panoplie de missiles surface-surface comme le Mosquite ou le Club, et qui maintenant, depuis l'été dernier, tire aussi des missiles Tsirkon.
Le même jour, on a le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengria, qui est arrivé en Chine. Quel bilan tirez-vous de cette visite ?
La visite du général de corps Saïd Chengria à Pékin vient à la demande des Chinois qui sont à la recherche d'une nouvelle stratégie envers l'Algérie et qui aujourd'hui proposent des démarches un peu plus dynamiques et un peu plus agressives en termes de propositions de fabrication, transfert de technologies, etc. La Chine est en train de revoir sa copie avec l'Algérie, avec un début de relation ces dernières années qui a connu pas mal de hauts et de bas. Mais il semble que Pékin et que le complexe industriel chinois soient très très intéressés par le marché algérien et ses capacités à la fois en termes de fabrication et en termes de marché en lui-même.
C'était Akram Kariev, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense pour Spoutnik Afrique. Il a réagi à l'escale d'un navire de guerre russe dans le port d'Alger. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Notre émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Le 14 novembre 1980, la Confédération de Sénégambie a été proclamée. Elle a associé entre 1982 et 1989 deux pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal et la Gambie. Cette décision d'unir leurs destins respectifs n'avait rien d'un pur hasard. Lors de l'indépendance, il était déjà question d'union entre ces deux entités, issues des anciennes colonies françaises et britanniques. C'est finalement le 30 septembre 1989 que la Confédération de Sénégambie a été dissoute, à la demande du Sénégal, à cause d'une divergence de vision et de position. Au micro de Spoutnik Afrique, Djibril Ning, analyste politique sénégalais, directeur de l'unité de recherche paix et sécurité du groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, est revenu sur la portée de cette date historique. Écoutons-le tout de suite.
Le 14 novembre 1981, lors d'une cérémonie à Banjul, a été annoncée la création de la Confédération de la Sénégambie. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs le contexte dans lequel cette union a été créée et les espoirs des deux États à travers cette union?
Effectivement, le 1er février 1982, la convention unissant la Gambie et le Sénégal a été signée pour la mise en place d'une confédération entre les deux pays. Alors, cela est intervenu dans un contexte où le gouvernement gambien a été renversé, n'est-ce pas, au mois de juillet 1981 par une personne qui était nommée Koukaï Sambassagnan, n'est-ce pas, et qui avait mis en place un conseil national révolutionnaire. À ce moment-là, le président Daouda Kairaba Diawara était à Londres pour assister au mariage de Charles II ou Charles III. Et Koukaï Sambassagnan a fait le coup d'État à son absence. Alors, il a fait appel tout de suite, disons, à l'intervention de l'armée sénégalaise, au gouvernement sénégalais, avec lequel il était uni par une convention de coopération militaire et de défense mutuelle qui a été signée en 1967. C'est sur cette base-là que l'armée sénégalaise a dépêché, n'est-ce pas, une troupe de 400 militaires pour intervenir. Durant cette intervention, il faut noter qu'il y a eu une cinquantaine de blessés et une trentaine de morts. Et c'est à la suite de cette intervention, n'est-ce pas, que des discussions ont été engagées pour arriver à terme, l'année suivante, en 1982, 1er février, à la signature du traité qui a uni le Sénégal et la Gambie dans une confédération appelée Sénégal. Un cabinet gouvernemental, disons, a été mis en place, composé de 4 ministres sénégalais et de 3 gambiens. Il y avait une union douanière également a été mise en place et une assemblée, n'est-ce pas, parlementaire, dont les deux tiers étaient composés de Sénégalais et un tiers de Gambiens.
La Confédération, elle reprend le nom historique de la Sénégambie qui couvrait au XVIIIe siècle des territoires bien plus vastes. Et comment les luttes coloniales entre Français et Britanniques ont modifié le visage de la région?
Oui, effectivement, la Confédération a pris le nom de la Sénégambie, d'un empire plutôt sénégambien qui unissait la Mauritanie, le Sénégal, plutôt la Mauritanie, la Guinée, la Guinée-Bissau, aux 4 pays, disons. Alors, effectivement, les luttes coloniales ont divisé les pays africains, le continent africain. Il faut dire que dans la période coloniale, l'Afrique a été divisée en zones d'influence entre les Britanniques, les Français et les Portugais. Et durant également des indépendances à la fin des années 80, ça a été la période de la guerre froide. Là aussi, les luttes coloniales se sont poursuivies, surtout contre les pays de l'Est et les pays africains qui étaient appuyés et aidés par les pays de l'Est. Mais il faut souligner que ces luttes intercoloniales, disons, entre coloniales, néocoloniales, pour diviser l'Afrique en zones d'influence, pour empêcher l'unité africaine, a connu son point culminant à la conférence de Berlin. C'est là où les Français, les Britanniques et les Portugais, les puissances coloniales, se sont partagées simplement l'Afrique en zones d'influence. Mais la division ne s'est pas arrêtée là. Les luttes coloniales aussi ne se sont pas arrêtées là. Alors c'est ça qui a motivé, disons, 1964, la mise en place de l'organisation de l'unité africaine. Auparavant, sur l'unité même, il y a eu tout un débat sur le continent africain, à savoir quelle était la meilleure approche. Parce que durant la colonisation, il y avait deux fédérations. Il y avait la fédération l'AOF, disons l'Afrique occidentale française, et il y avait l'AF, l'Afrique
équatoriale française.
Voilà, orientale française. Mais durant les indépendances, il y a eu ce que le président Senghor a appelé la balkanisation de l'Afrique. Ils ont donc divisé les pays, les États africains en petits pays. Mais il y a eu un débat à ce moment-là des dirigeants politiques africains sur l'approche, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a eu deux groupes. Le groupe de Casablanca, composé des Ahmed Sékou Touré, des Djibo Bakary, des Krumah, etc., qu'on a appelé des révolutionnaires. en tout cas. Et il y avait le groupe de Monrovia, dirigé pour l'essentiel par Senghor et Oufouet Boigny, etc. Il y a eu cette confrontation-là qui a duré, qui a été à la veille des indépendances, mais on a vu tourner plus ou moins cette page à l'avènement des indépendants pour mettre sur pied l'OUIA. Il y avait pour principale mission la décolonisation du continent.
Dans quelle mesure la Confédération Sénégambie de 1980 s'inscrit-elle dans la tendance de la panafricanisation?
Ah oui, il faut dire que la Confédération sénégambienne a été dans les fédérations ou confédérations qui ont été mises en place en Afrique, disons le modèle le plus abouti, même si ça n'a pas donc survécu à certaines contradictions. Il faut dire simplement que cette confédération ne s'est pas créée ex nihilo. Il faut replacer cette action dans un contexte international bien précis. Comme je le disais tantôt à mon introduction, disait que le continent africain a été divisé en zones d'influence durant la période coloniale. Et des indépendances à la fin des années 80, ça a été la période de la guerre froide. Là aussi, c'était un moment de très grande division. Et il faut dire que à la suite de cela, à partir de la fin des années 80, avec la chute du mur de Berlin, l'affaiblissement des pays de l'Est, il y a eu une période de construction de l'hégémonie occidentale qui a reposé sur un certain nombre de facteurs comme la dollarisation de l'économie mondiale, la baisse ou la faillite du multilatéralisme et l'augmentation des taux d'intérêt et les plans d'ajustement qui avaient vraiment mis à genoux complètement les pays africains. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que les pays africains se sont rendus compte, les dirigeants africains, à partir de ce moment, qu'il fallait mettre l'accent sur le développement parce que la lutte qui a amené la division entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca était pour l'essentiel sur la vision, sur le plan politique. Mais là, à la suite de l'avènement de la deuxième vague de la mondialisation à partir de la fin des années 80, ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre l'accent sur l'économie. Ça a eu l'avantage de raffermir l'unité entre les différents pays. Ainsi, il y a eu le plan de Lagos qu'ils ont mis en place en 1980, qui a donné un certain nombre de résultats. L'objectif, c'était l'autosuffisance, mais aussi qu'il y avait un certain nombre de faiblesses. Il y a eu les traités d'Abuja de 1991. L'objectif, c'était la mise en place de la communauté économique africaine pour lever, par exemple, les barrières douanières, tarifaires et ou non tarifaires, implanter des zones de libre-échange, etc. Il y a eu également, en 1994, un autre traité d'Abuja qui, en plus de la communauté économique africaine, avait donné une directive pour la mise en place de groupes régionaux sur le plan économique, comme la CDAO, comme la CEMAC, etc. Ce traité aussi avait poussé pour aller vers la coopération interrégionale. Ceci, disons, a abouti à la mise en place de l'Union africaine à partir de 2000-2001. Et cela a permis donc d'accélérer, de raffermir davantage l'unité, de passer de la décolonisation, la lutte pour la décolonisation, à la lutte maintenant pour le développement et contre aussi, disons, l'insécurité, la lutte pour la sécurité, la pacification du continent et pour son développement. Donc, il y a eu, pour me résumer, ces luttes coloniales ou intercoloniales qui ont tout fait pour mettre à genoux les pays africains, pour continuer à les diviser et à les soumettre. Mais je pense que même si les pays africains aujourd'hui ne se sont pas totalement dégagés de l'influence occidentale, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de progrès vers une plus grande autonomie et une plus grande indépendance des pays africains.
Pourtant, en 1989, les deux États ont fini par dissoudre cette union. Et comment cette dissolution a-t-elle affecté leurs futures relations?
Ouais, il faut dire d'abord qu'il y avait un certain nombre de résistances à cette union. Il y avait les familles des anti-britanniques qui étaient en Gambie. Il y avait aussi les ethnies Akou, etc. Il y avait un certain nombre de résistances, de forces centrifuges qui étaient contre cette union-là. Au Sénégal aussi, il y avait un certain nombre de critiques de l'opposition par rapport à cette union. Cette union avait permis au Sénégal de lutter contre l'économie de contrebande qui créait une sorte de dumping à l'intérieur du Sénégal, n'est-ce pas, par rapport au prix qui était fixé ici. Ça avait permis au Sénégal aussi d'assurer la continuité de son territoire, parce que la Gambie est une sorte de, disons, on dit, de banane à l'intérieur de la bouche du Sénégal. Ah, divise le Sénégal en deux parties, la partie nord et la partie sud. Oui. Donc ça avait l'avantage de régler cette question-là également. Et puis, de fouetter les économies des deux pays, parce qu'on était dans une période de sécheresse également. Vous voyez, qui avait affecté lourdement la Gambie également. L'économie arachidière était tombée pratiquement. Et le tourisme également, qui était l'autre base économique de la Gambie, avait considérablement chuté dans ce contexte-là. Donc, la Gambie pouvait trouver, disons, avantage dans cette union, comme le Sénégal pouvait trouver avantage. Mais certains disent que le Sénégal trouvait beaucoup plus d'avantages, n'est-ce pas, que la Gambie, parce que pour une raison très simple, que l'économie sénégalaise était beaucoup plus solide. Alors, une des critiques que la Gambie faisait au Sénégal, c'était les taux des taxes qui étaient excessivement élevés. Alors, mais c'est toujours comme ça, dans une union, ce sont les forts qui en profitent beaucoup plus que les faibles. Alors, comment ça a affecté les pays? Il faut dire que pour le Sénégal, la contrebande a continué. Je n'oublie pas aussi l'irrédentisme au niveau de la Casamance, parce que ça avait permis, ça allait permettre de régler cette question de la rébellion casamancaise qui faisait de la Gambie sa base arrière. Voyez. Donc, le fait que la dissolution de cette confédération a permis aux groupes armés de la Casamance, au MFTC, de retrouver sa base de retrait. Le Sénégal n'était pas loin de penser qu'il y avait même une complicité entre la Gambie et ces rebelles-là, surtout quand la Gambie était dirigée par Yahya Jammeh par la suite. Voyez. Donc, il faut dire que ça a affecté les deux pays, hein, d'une manière ou d'une autre, sur le plan notamment, sur le plan économique. Parce que ça, non seulement allait permettre à ces deux pays de se fortifier davantage, mais cet exemple, si ça avait réussi, allait pousser certainement les autres pays de la Sénégambie, de l'ancienne Sénégambie, à rejoindre cette confédération-là. Voyez. Et ça allait être un modèle, en tout cas, qui pouvait être un exemple probant pour l'unité de l'Afrique.
Dans l'histoire moderne, les pays africains sont plus susceptibles de se diviser en États indépendants distincts que de s'unir. Dans quelle mesure cela est-il dû aux politiques néocoloniales visant à diviser pour régner ?
Oui, il faut dire que, il y a une transition politique que les pays africains, d'une manière générale, n'arrivent pas, depuis 1960, à franchir. C'est la transition entre l'indépendance, les indépendances formelles et l'indépendance réelle, voyez, la souveraineté. Parce que la plupart de nos pays ont des économies extraverties, c'est-à-dire dépendantes, 70 à 80%, des économies occidentales. Bon, alors, il faut dire que les progrès faits au niveau de l'Union africaine, ont permis plus ou moins aux Africains de retrouver une partie de leur autonomie, mais il faut dire que, pour l'essentiel, n'est-ce pas, nos pays sont encore restés sous influence des pays occidentaux. C'est seulement la forme qui change. Maintenant, c'est à travers les multinationales et même, certains pays émergents qui viennent, n'est-ce pas, pour exploiter les économies africaines. Il faudrait que les pays africains accélèrent leur unification. Il y a eu la CELECAF qui a été mise en place, je crois, en 2013 et qui avait pour objectif d'arriver à 57% du commerce intra-africain en 2023. Alors, nous sommes en 2023. Il reste quelques mois pour que l'année 2023 se termine. Et cet objectif-là, à mon avis, n'a pas beaucoup évolué parce que le commerce intra-africain et se retrouve aujourd'hui au niveau de 14%. Alors, je ne vois pas comment, dans 4 mois, la CELECAF pourra faire en sorte que les pays africains, à travers la CELECAF, arrivent à 57% dans le commerce intra-africain. Si, par exemple, cet objectif était atteint, ça allait permettre au continent africain de se dégager quasiment pour une bonne partie de l'influence néocoloniale occidentale, etc., et de prendre donc son destin en main.
Une dernière question, on a l'ex-président libyen Muammar Kadhafi qui prônait pour une Afrique unie. Une telle union est-elle possible entre États africains aujourd'hui?
Oui, cette union devrait être possible. Je pense qu'il y a eu en 2008 un sommet à Accra sur les États-Unis d'Afrique. Alors, le sommet s'est terminé sur un échec. Mais Kadhafi et le président Ouad, je crois, étaient pour la mise en place d'un gouvernement de l'Union, c'est-à-dire l'unité politique. Ce contre quoi le groupe de Monrovia avait lutté, et ce contre quoi aussi les présidents, n'est-ce pas, les chefs d'État actuels ont lutté, et ils ont rejeté cela. Et le président Kadhafi était prêt à financer la mise en place d'une banque africaine, voyez, parce que les réserves pour une telle banque étaient très importantes, et il était prêt à le faire. Et je pense que ce n'est pas pour rien que finalement la Libye a été attaquée et Muammar Kadhafi lui-même a été assassiné. Bon, donc, disons, l'approche, la mise en place d'un gouvernement de l'Union aurait permis à l'Afrique de quitter cette unité inter-étatique et d'aller à une supranationale. Parce que c'est une supranationale qui permet de prendre des décisions au plan continental d'une façon rapide, dégagé d'un certain nombre d'intérêts et d'influences. Mais là, en l'état actuel de l'unité, on est dans un schéma intergouvernemental. Donc, les gens négocient chaque fois en tenant compte de tel ou tel intérêt, etc. Vous voyez, donc, l'unité, c'est du domaine du possible. Le panafricanisme, vous me demandiez d'ailleurs dans quelle mesure l'Union, la Confédération sénégambienne allait dans le sens, disons, du mouvement pan-panafricain. Oui, effectivement, ça allait, c'était un pas dans la bonne direction, comme je venais de vous dire, mais ça a échoué, comme aussi la Fédération du Mali, qui avait eu lieu entre le Sénégal et l'ancien Soudan, disons, cette expérience également a tourné court. Mais je pense qu'il y a un nouveau, disons, élan de panafricanisme qui est en train de souffler sur le continent. Peut-être qu'avec les nouvelles générations qui arrivent au pouvoir, n'est-ce pas, et qui arrivent à la tête des partis politiques, peut-être bien que le panafricanisme va être relancé et va permettre, disons, d'arriver à cette supranationale qui seulement pourra faire à l'Afrique des progrès substantiels qui vont lui permettre de se dégager totalement de la domination occidentale, de la domination coloniale et néocoloniale.
C'était Djibril Ning, analyste politique sénégalais, directeur de l'unité recherche paix et sécurité du groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la Confédération de Sénégambie, il est revenu sur la portée de cette date historique. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je salue les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Le 14 novembre est célébrée la Journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Elle a pour but d'attirer l'attention sur ce crime et sur les moyens de le combattre, tout en soulignant l'importance de la coopération internationale. Une convention visant à interdire et à empêcher l'importation, l'exportation, ainsi que le transfert de propriété illicite de biens culturels a été signé en 1970. Audrey Ouzoulay, la directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de cette date, a rappelé à chacun que voler, vendre ou acheter une œuvre pillée signifiait à participer à un pillage des peuples et des mémoires. Et l'Afrique est touchée par ce fléau. Selon certaines estimations, plus de 90% d'objets d'art africains se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Au micro de Spoutnik Afrique, le professeur Bertin Calixte Bia, conservateur du musée d'histoire de Ouida au Bénin, est revenu sur la problématique du pillage des objets d'art africains à l'occasion de cette date. L'UNESCO a proclamé le 14 novembre Journée internationale de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Selon certaines estimations, plus de 90% des objets d'art africains se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Comment sont-ils arrivés là et peut-on dire que cela s'est fait légalement selon vous ?
Par rapport au pourcentage que vous avez avancé, je ne saurais être affirmatif parce que je n'ai pas de données précises en main, mais ce qui est sûr, un nombre important, plus de la moitié des biens culturels africains se retrouvent dans les pays occidentaux. Et je dirais une grande partie dans les pays occidentaux. Voilà ce que je peux dire. Par rapport au pourcentage, il revient à chaque source de présenter son pourcentage des biens qui ont été pillés. Et là, j'aborde la deuxième question. Comment sont-ils arrivés en Occident? Il y a plusieurs voies. Premièrement, par le truchement des grands voyages, les voyages de découverte. Ensuite, par le biais de la colonisation, un bon nombre de pays ont été pillés suite à l'invasion coloniale. Quand je dis coloniale, je prends tous les pays européens qui ont porté à bras le corps ce phénomène. Ensuite, il y a eu également, par le biais de d'achats illicites, pas le truchement d'intermédiaires, pas légaux. Donc il y a eu plusieurs voies qui ont permis ce pillage de biens culturels africains.
Est-ce qu'il est juste de parler d'objets d'art dans ce cas, ou bien ils ont une importance bien plus grande pour l'Afrique?
Là, vous posez une question d'école. Qu'est-ce qu'on entend par objet d'art? Et je pense que tout objet qui a une valeur exceptionnel du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'art, de la science, du point de vue des productions sociétales, sont des objets d'art du moment où ils constituent des pièces uniques en leur genre et qui sont porteurs d'une certaine histoire, d'un certain message ou qui sont porteurs d'un phénomène de société. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Si, si.
Donc, ce sont des objets d'art. Ils peuvent être des objets, des pièces historiques. Ils peuvent être des objets rituels, cérémoniels. Mais pour la plupart, ce sont des objets d'art, de mon point de vue.
Et pourquoi est-il si important que ces objets reviennent en Afrique?
Là, vous posez encore une question où ma réponse sera nuancée. Nous sommes aujourd'hui et à une époque où on parle de restitution. Je vois le problème autrement. Il y a des objets qui sont à restituer, mais est-ce que tout est à restituer? Nous sommes à un moment où, en parlant de restitution, nous devions également parler de circulation des biens culturels. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance au niveau de ma position en tant que conservateur. Il y a des objets qu'il faut restituer. Il y a des objets qui peuvent rentrer dans le cadre d'une coopération de circulation de biens culturels. Tout n'est pas à restituer. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Tout n'est pas à restituer. Et c'est un débat qui est ouvert.
Vous êtes l'un de ceux qui a préparé et supervisé la restitution en novembre 2021 des 26 œuvres pillées par les troupes coloniales françaises dans les palais royaux d'Abomey en 1892. Est-ce que vous pourriez nous décrire les principales étapes de cette restitution? Et quelle est l'importance de cet événement pour les Béninois? Y a-t-il également d'autres projets similaires qui sont en cours actuellement?
Effectivement, j'ai été parmi les deux conservateurs envoyés au musée de Cap Branly Jacques Chirac dans le cadre de la restitution des 26 œuvres du Bénin. J'ai participé aux différents travaux. Il faut situer cette restitution, il faut l'apprécier sur deux volets. Il y a le volet politique qui n'est pas de mon ressort. J'ai participé au volet technique qui est de mon ressort en tant que conservateur. Et donc, j'ai participé à cette restitution et j'ai été le convoyeur de ces 26 œuvres du musée de Cap Branly jusqu'à Cotonou, où par la suite nous avions monté une exposition à la présidence de la République qui a eu un succès énorme. Et c'est au vu de ce succès que je me dis, cette question de restitution a rencontré une cohésion, une adhésion totale au niveau de la République du Bénin. Je tiens à le souligner, cela a été un succès formidable, surtout au niveau du peuple béninois et au niveau des Africains. Je me dis, c'est l'un des moments fort de notre histoire, de l'histoire des collections, de l'histoire des œuvres pillées chez nous au Bénin. Maintenant, je reprends encore la question. Est-ce que tout est à restituer? Je ne crois pas. Il y aura, et ça ressort, c'est du ressort des politiques, de décider de la question de la restitution. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres à restituer? Il y en a. Il y en a. Il y a assez d'œuvres à restituer qui ont une importance particulière lorsqu'ils se retrouvent dans leur pays d'origine. Je vous donne deux exemples. Lorsque vous prenez les éléments du Fa, du prêtre Guédébé, qui était l'un des meilleurs prêtres de la cour royale à Abomey, son outil de consultation de Fa se retrouve aujourd'hui au musée de l'homme de Lourdes à Paris. Il y a également le dieu Gou qui est au Louvre. Et il s'agit là des pièces exceptionnelles qui n'ont leur place que dans leur pays d'origine. Il y a bon nombre d'objets qu'il faut citer. Mais je reviens pour conclure et dire que tous les objets ne sont pas à restituer et ne peuvent pas faire objet de restitution.
Et je veux revenir sur cette question. Est-ce qu'il y a des projets similaires de restitution en cours actuellement?
Au Bénin ou ailleurs?
En Afrique en général, pas seulement au Bénin.
En Afrique, bien sûr. Au Bénin, bien sûr. Il y a environ un mois, j'étais à Berlin dans le cadre d'un travail de coopération de voyage culturel. Et il y avait une délégation du Cameroun qui arrivait à Berlin dans le cadre des travaux de restitution. Donc, c'est une question qui est permanente. Et ça dépend d'un pays à un autre pays colonisateur. Maintenant, il revient à chaque pays de penser, de gérer et de diriger ce phénomène de restitution. Je voudrais souligner un autre aspect de cette question. La question de la restitution des biens ne se pose pas seulement entre l'Occident et l'Afrique. Cette question doit être également abordée entre les pays africains. C'est un phénomène, c'est un problème à ne pas occulter. N'oubliez pas que des objets de certains pays se trouvent dans d'autres pays et qui sont partis parfois du fait de la colonisation parce que certaines capitales étaient la capitale de l'AOFO, etc., etc. Donc ce n'est pas un problème vu Occident, Afrique, il y a ce problème qui doit être vu également à l'intérieur de l'Afrique.
On lit de temps en temps dans la presse occidentale que les propriétaires actuels des biens culturels s'inquiètent de leur préservation en Afrique, comme si les Africains n'étaient pas en mesure d'assurer des conditions de stockage adéquates. Qu'en pensez-vous?
Est-ce qu'il revient au voleur de dire à celui dont il a dérobé le bien qu'il n'est pas en mesure de le conserver? Ça, c'est une question que je leur retourne. Je voudrais qu'on dépasse ce genre d'analyse. Faites un tour dans les musées occidentaux et vous allez constater que ce qu'ils nous reprochent se trouve aisément présent dans leurs institutions muséales. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le cas du Bénin que moi je connais, où j'ai travaillé, où je travaille, les conditions sont réunies du point de vue ressources humaines, du point de vue équipement, du point de vue financier pour gérer la question des biens culturels. Je ne réponds pas à ce genre de débat. Il s'agit des gens mal intentionnés qui pensent que bon, il n'y a qu'en Occident, que bon, tout est bon, qu'il y a toutes les conditions pour gérer les biens culturels. Faites un tour dans les pays africains et surtout au Bénin et vous allez constater que nous n'avons de leçons à recevoir de personne, encore moins ce genre de leçons.
Je vais terminer sur une dernière question. Est-ce que vous pensez que les pays d'Afrique devraient mettre en place des structures panafricaines pour travailler ensemble à la restitution des biens culturels?
Je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait une bonne idée, bien que les problèmes que pose la question de la restitution, ces problèmes ne sont pas uniformes dans tous les pays africains, mais cela reste un problème commun aux pays africains. Et une démarche d'ensemble ne serait pas mauvaise.
C'était le professeur Bertin Calixte Bia, conservateur du musée d'histoire de Ouida au Bénin pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur la problématique du pillage des œuvres d'art africaines à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La Semaine internationale de la science et de la paix, c'est en ce moment. C'est en décembre 1988 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer la Semaine internationale de la science et de la paix, qui coïncide chaque année avec la semaine où tombe le 11 novembre, date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Elle encourage notamment les échanges universitaires en faveur de la promotion de la paix, tout en sensibilisant l'opinion publique aux relations entre la science et la paix. Sur le continent africain, des scientifiques ont récemment fait des découvertes importantes. On peut notamment citer le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui a découvert des moyens pour lutter contre le virus d'Ebola. Au micro de Spoutnik Afrique, le professeur Jean-Marie Beyakamba, doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, a fait le point sur la situation dans le domaine scientifique sur le continent africain.
La science africaine est l'une des plus anciennes sciences connues de l'homme. On peut rappeler l'héritage scientifique des Égyptiens ou l'université de Tombouctou, par exemple. Par la suite, l'oppression des peuples d'Afrique par les colonisateurs et l'inégalité des conditions économiques ont longtemps fait obstacle au rétablissement de la science africaine. Selon vous, peut-on dire que cette période sombre est terminée?
Bon, je ne peux pas dire qu'elle est terminée dans la mesure où depuis que les pays africains sont indépendants, mais ils sont pas vraiment économiquement indépendants. Peut-être pas du tout politiquement, parce qu'il y a toujours des interférences qui arrivent à tous les niveaux. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est terminé. C'est un combat qu'il faut mener pour pouvoir... De laisser l'Afrique libre de ses actions, de ses mouvements. Je n'ai pas l'impression que la période où l'Afrique était étouffée est terminée. Hein. Ici, en RDC, nous avons par exemple la guerre de l'Est. Il y a beaucoup de puissances étrangères, beaucoup de multinationales qui sont derrière, pour pouvoir... Étouffer la RDC pour que la RDC ne puisse pas émerger, font la guerre. Ça fait presque 30 ans. Donc, dire que, voilà, les pays prédateurs ont laissé l'Afrique évoluer, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine scientifique, ça serait se tromper de la réalité.
Merci beaucoup. Quelle découverte importante les scientifiques congolais et africains ont-ils faites récemment? Pourriez-vous peut-être nous citer quelques-unes de ces découvertes?
Bon, il est vrai que la plupart des découvertes toutes récentes, c'est des découvertes sur les maladies comme les virus d'Ebola. Hein. Donc, on a un de nos scientifiques qui est médecin, il est prof à la faculté de médecine, qui a quand même bien découvert des stratégies pour pouvoir lutter contre cette maladie. C'est une référence en Afrique par rapport à tous les endroits où il y a ces gens de cette maladie qui est quand même très mortel, enfin, en tout cas, qui fait beaucoup de dégâts quand elle apparaît. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été reconnu mondialement avec le professeur Mouyembe, qui est un des professeurs à la faculté de médecine, qui est aussi responsable de l'Institut national de la recherche en biologie. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Il est évident qu'il y a des petites choses qui se font par-ci, par-là, mais parce qu'on est en RDC, non pas à une très grande portée, parce qu'il va falloir avoir aussi la possibilité de communiquer tout ce que nous découvrons.
Quels sont, selon vous, les obstacles principaux au développement de la science dans votre pays et sur le continent africain en général?
Dans notre pays, le principal obstacle au progrès de la science, c'est le financement de la recherche. Vous savez, si la recherche n'est pas financée, il y a beaucoup de talents qui disparaissent, qui s'étouffent,
Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, par exemple ici dans nos universités, en tout cas à faculté. On a beaucoup de jeunes talents qui sont très intelligents, avec beaucoup d'imagination, qui veulent bien rester dans la recherche et dans l'enseignement, mais faute de moyens financiers, susceptibles de soutenir des recherches dans tel ou tel autre domaine, elles sont obligées d'aller travailler ailleurs. Maintenant, dans d'autres pays africains, c'est vrai que dans certains pays, il y a quand même des efforts qui sont faits pour pouvoir financer la recherche, mais de manière globale, c'est un peu comme ça. Le budget de la recherche dans certains pays, soit sont marginaux, soit sont complètement inexistants. Ici, je ne dirais pas que c'est inexistant, mais c'est comme si c'était le cas. Et c'est pour ça que c'est majeur. Parce que ce ne sont pas les talents qui manquent, mais c'est des financements de la recherche qui fait énormément défaut. En tout cas, dans notre pays, c'est le cas.
Dans ce contexte-là, je me permets de vous poser une question suivante. Ce n'est pas un secret que de nombreux scientifiques talentueux et surtout de talentueux et jeunes de l'Afrique sont débauchés par les pays occidentaux et les sociétés transnationales. Selon vous, quelles mesures les États africains devraient-ils prendre pour s'assurer que les scientifiques restent dans leur pays d'origine et travaillent au profit de leur pays?
La réponse à cette question est déjà donnée dans la réponse précédente. Il faut juste financer la recherche. Je vais vous donner le cas de notre faculté. Nous avons pratiquement 40% de nos professeurs qui vivent à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, qui travaillent là-bas en tant que chercheurs, en tant que professeurs, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Belgique. 40% de nos enseignants sont résidents dans des pays occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la facilité ici, quand ils viennent, de rester ici. Encore une fois, c'est vraiment le financement des pays africains qui va faire un gros effort pour financer la recherche et l'enseignement de qualité. Et c'est une grosse perte. Autant tout à l'heure, je disais que nous avons des jeunes talents, des jeunes étudiants qui finissent nos études d'ingénieurs ici à la faculté. Et faute de financement suffisant, ils sont obligés d'aller travailler ailleurs. Ils sont obligés, et quand par exemple il y a une bourse qui se présente, ils partent ailleurs et presque, peut-être 60, si pas 70% de ces jeunes talents restent à l'étranger, toujours faute des financements suffisants de la recherche et de l'enseignement dans nos pays. Donc ça, c'est une réalité. Nous vivons cela comme réalité. Et du coup, nous avons même du mal à respecter l'année académique parce que une grande partie de nos enseignants, des chercheurs sont à l'étranger. Il y en a qui sont en Afrique du Sud. Bon, ça, c'est encore l'Afrique, mais la plupart sont dans des pays occidentaux. Il est évident que dans un monde multipolaire, l'approche serait différente parce que les gens auraient peut-être d'autres options. Hein, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'options. Je sais que, par exemple, un pays comme la Russie offre beaucoup de bourses dans nos pays ici. Pour l'instant, on est dans une phase de relance parce que je pense que depuis l'année passée, il y a eu un accord de partenariat qui a été signé avec notre cellule de coopération d'université et un certain nombre d'institutions universitaires au travers de l'ambassade russe en RDC. Il est vrai que quand il y a plus d'offres, les possibilités, les gens peuvent commencer à réfléchir différemment. Il est clair que quand il y a plus d'offres par rapport à tout ceci, les gens vont commencer à regarder les choses différemment et peut-être que les développements économiques aidant, les moyens mis à la disposition de l'enseignement aidant, les choses peuvent être regardées différemment. Ça, c'est clair.
Parlons un petit peu plus en détail des technologies modernes et en particulier de l'intelligence artificielle qui, on le sait, est développée par plusieurs de vos étudiants et des jeunes chercheurs qui ont terminé votre université. Comment, à votre avis, l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe peuvent-elles contribuer à relever le défi relatif à la santé, l'alimentation, l'énergie et aussi la sécurité en Afrique et en particulier en RDC?
Il est évident que l'intelligence artificielle va aider beaucoup de choses, à simplifier beaucoup de choses dans la mesure où, déjà avec l'avènement de l'ordinateur, il y a quand même beaucoup de choses qui se font de manière systématique, surtout des tâches répétitives. L'intelligence artificielle venant, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi se faire, que ce soit, comme vous l'avez certainement vu avec notre jeune ingénieur qui a fabriquer un robot commandé par la pensée. Il y a beaucoup de domaines, que ce soit sur le plan économique, il y a beaucoup de prédictions qui peuvent se faire au travers de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le commerce, dans l'estimation de projections sur le climat, dans les projections, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement, on essaie un peu d'imaginer ou d'imiter l'intelligence humaine, mais de le faire par la machine qui peut manipuler plusieurs quantités de données très rapidement et donner la solution. Il est évident que c'est un bon accompagnement par rapport à ce que l'homme est capable de faire, parce qu'après tout, l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui crée cette technologie, qui crée les programmes informatiques qui sont derrière. Ça ne peut qu'aider à l'amélioration de la condition de vie des personnes encore trop antiques, que ce soit bien utilisé, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec des situations où le monde est commandé par des machines. Ça, c'est clair. Mais pour moi, je considère l'avènement de l'intelligence artificielle comme étant un plus, du moment que c'est utilisé de manière à faire évoluer non seulement les conditions de vie de la population, comme je disais tout à l'heure, que la nouvelle technologie d'innovation, la science en général, ça sert à élever la qualité de vie des gens. L'intelligence artificielle fait partie évidemment de ces domaines de science qui doivent faciliter la vie. À mon avis, c'est pas une menace, c'est une menace c'est mal utilisée. Ça, c'est comme toutes les choses qu'on utilise. Parce que, par exemple, si vous prenez un médicament, au lieu de prendre un comprimé par jour, vous en prenez 100 par jour, un comprimé peut vous anéantir, tout comme peut vous sauver.
Donc, vous pensez plutôt que l'intelligence artificielle n'est pas, je dirais, plus dangereuse que d'autres technologies et sa mise en œuvre dans différents domaines ne va pas plutôt affecter, par exemple, le problème du chômage en Afrique?
Non, je ne le pense pas. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Ça, c'est comme tous les domaines de la science. Si c'est bien utilisé, ça va profiter, améliorer la qualité des personnes. Si c'est mal utilisé, ça va abrutir les gens, si pas les détruire. On a dit un moment qu'avec l'avènement des ordinateurs, des tablettes, etc., les papiers disparaîtraient. Les livres disparaissaient, on voit bien que les livres n'ont pas disparu, les papiers n'ont pas disparu. Donc, il faut juste utiliser l'intelligence artificielle, à mon avis, à bon escient. Bon, c'est vrai que les gens peuvent avoir peur que notre travail va être effectué par des machines ou des robots, mais ça ne sera jamais au-delà, au point de créer des chômages. Ça, c'est pas possible, ça ne faut même pas l'imaginer. Bon, c'est une crainte qui est légitime, mais ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais, c'est impossible. Il y a des choses que les hommes seront toujours obligés de faire. Je ne crois pas que la machine remplacera. Je ne crois pas que la machine remplacera l'homme. Je ne crois pas du tout à aucun moment.
Et en parlant un petit peu de la souveraineté technologique, à votre avis, dans quel domaine les pays africains ont le plus besoin de renforcer leur souveraineté technologique?
En fait, les pays africains doivent maîtriser la technologie dans tous les domaines dont, pour résoudre le problème. Le développement, j'ai définie comme étant la maîtrise des technologies par les nationaux. Les nationaux doivent maîtriser tous les domaines de la technologie qui intéressent leur vie de tous les jours. Nous, par exemple, ici au Congo, on a beaucoup de mines. Toutes les matières premières du monde, ça peut partir de l'eau, de la forêt, du diamant, du cuir, de l'eau. C'est des choses que nous devons maîtriser nous-mêmes. Évidemment, en partenariat avec d'autres pays, d'autres sociétés étrangères, mais ça doit d'abord être quelque chose que les nationaux maîtrisent. Évidemment, il y a toutes les autres sciences, que ce soit l'aérospatiale, que ce soit des armes, que ce soit la lutte contre les réchauffements climatiques. C'est un défi grandiose, c'est une véritable menace. L'intelligence artificielle, si elle menace un peu d'emploi, mais le changement climatique, c'est une véritable menace. Parce que nous, même ici, en RDC, où on est à cheval sur l'équateur, on est censé être en pleine saison de pluie. Mais depuis presque 4 ou 5 ans, on voit que parfois, il se passe 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, en pleine saison de pluie, sans qu'il y ait de pluie. Donc on voit bien qu'on subit les effets du réchauffement climatique. Les sciences qui concernent, que ce soit la maîtrise de l'énergie, qui concernent tout ce qui peut nuire à l'environnement, les traitements des déchets, l'économie circulaire, tous ces domaines, nous devons les maîtriser parce que sinon, le monde va disparaître. C'est vraiment la grande menace à laquelle le monde ne s'attendait pas, hein, le réchauffement climatique. Ce matin, tu suivais encore que, voilà, avec toutes les calottes du Nord, qui ici, ça descend d'un certain niveau, le niveau de la mer va monter de plus de 70 mètres, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui vont disparaître et avec toutes les conséquences que ça va amener. Non, je pense que tous les domaines de la science qui concourent au bien-être de la population, de nos populations, doivent être maîtrisés par davantage de nos concitoyens, ça c'est clair.
Merci beaucoup, cher professeur. Et toute dernière question, vous avez déjà évoqué un partenariat avec une université russe. De nombreux diplômés d'universités soviétiques et russes travaillent actuellement en Afrique et je crois en RDC aussi. Comment évaluez-vous la coopération entre nos pays dans ce domaine, dans le domaine de la science et des technologies, et voyez-vous un potentiel de développement ?
Je disais tout à l'heure que au début, il y a quelques années, quand j'étais étudiant, il y avait quand même énormément de coopération entre cette université et les universités russes. J'en vois beaucoup moins, vraiment, franchement, beaucoup moins. Mais ces derniers temps, il y a un petit réchauffement qui est là parce que je sais que le doctorat a signé des partenariats avec, en tout cas, l'ambassade russe. J'ai dispatché, je pense, il y a quelques mois, des propositions de bourses d'études pour la Russie. Mais il faut que ça soit encore beaucoup plus, qu'il y ait beaucoup plus de communication. Il est vrai que je pense que la Russie n'a pas communiqué suffisamment sur l'intérêt. Quand même, moi personnellement, en tant qu'ingénieur, au regard de la communication sur laquelle je me suis engagé en tant que doyen de la faculté. Je cite notamment le cas de la Russie qui forme, d'après les chiffres que j'ai, environ 500 000 ingénieurs par an, ce qui est une caractéristique de son état de développement et de puissance, parce que je considère que le nombre d'ingénieurs qu'on forme par an est un élément important de l'augmentation du produit intérieur brut. Donc voilà, la Chine fait un peu plus. La Chine, c'est environ 1 million d'ingénieurs par an. Bon, on voit bien qu'ils ont mis beaucoup de moyens par rapport à ça. Mais il est important pour nous qui avons à peine une centaine d'ingénieurs que l'on forme par an pour un pays si grand que la RDC, il est évident que toutes les opérations qui peuvent faire en sorte que nous puissions augmenter le nombre d'ingénieurs que nous formons par an sont les bienvenus, ça c'est clair. Encore faudra-t-il que nous nous visons là-dessus.
C'était le professeur Jean-Marie Beyakamba, doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur la situation dans le domaine scientifique en Afrique à l'occasion de la Semaine internationale de la science et de la paix. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.